Bonjour, c'est Axel Le Tarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite.
Bonsoir à toutes et à tous. Une semaine après la découverte du crâne du petit Émile dans le Haut-Vernay, le mystère reste entier. Les fouilles continuent pour retrouver le reste des ossements et essayer de comprendre les circonstances de la mort du petit garçon. Comment travaillent les enquêteurs ? Quelles sont les pistes les plus plausibles ? Comment la science, l'ADN, les témoignages, même les plus anodins, permettent-ils de débloquer une enquête ? Et ce, alors que précisément, concernant l'une des affaires les plus fascinantes du pays, deux témoins dans le Doubs affirment avoir reconnu Xavier Dupont de Ligonnès. Des vérifications sont actuellement en cours. C'est le sujet de cette émission de C'est dans l'air, intitulée ce soir « Émile, Lina, Dupont de Ligonnès, saura-t-on un jour ?» Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Audrey Goutard. Vous êtes grand reporter à France Télévisions, spécialiste des faits de société. Thomas Proutot, vous êtes chef du service police-justice de RTL. Marilyn Baranès, vous êtes docteur en psychologie clinique et psychopathologie. Vous êtes spécialisé dans le traumatisme et vous êtes experte judiciaire. Et enfin, colonel Marie-Laure Pesan, vous êtes porte-parole de la Gendarmerie nationale. Merci de participer à cette émission en direct. Peut-être commençons avec vous, colonel. Où en est l'enquête concernant la mort du petit Émile. Donc les fouilles continuent, j'imagine, dans le Haut-Vernay. Et que cherche-t-on exactement à savoir en ce moment ?
Alors depuis la découverte des ossements du petit Émile, il y a une zone qui a été sécurisée pour pouvoir continuer effectivement les fouilles. On recherche tout élément, tout indice qui pourrait nous permettre de faire progresser l'enquête et de privilégier peut-être une hypothèse par rapport à une autre. Pour l'instant, on a découvert des ossements, on a découvert quelques vêtements à une centaine de mètres du crâne qui a été découvert sur le secteur du Haut-Vernay. Donc pour l'instant, on continue à fouiller le terrain pour éventuellement trouver soit d'autres ossements, soit d'autres effets personnels, soit des indices qui auraient pu être déposés sur place et qui permettraient d'orienter les investigations.
Et donc, ce sont quoi ? Ce sont plusieurs dizaines de gendarmes qui sont sur place avec des chiens ?
Alors, on avait une centaine de gendarmes, on avait l'Institut criminel de la Gendarmerie nationale qui avait envoyé six enquêteurs, six experts sur place pour faire des vérifications sur le sol, sur le terrain. On en a encore quelques-uns qui sont présents sur place. L'idée, c'est aussi de modéliser avec notamment un drone, ça a été le cas, mais aussi sur place, la scène, en faire la figer dans le temps de manière numérique pour pouvoir y revenir plus tard et étudier.
On fait une photo 3D de la scène pour, s'il devait pleuvoir, par exemple, pouvoir se dire « Ah ben non, c'est pas possible que… »
Oui, exactement, avec les drones. Alors, on a les experts qui vont exploiter au niveau du sol des éventuels indices, qui vont mettre, vous savez, on le voit souvent dans les séries, un numéro, ouais. Ils vont faire des photos, ils vont figer les choses sur le terrain. Et ensuite, on va le figer de manière numérique. Donc, ce sont les drones, notamment, qui ont des caméras thermiques, infrarouges. Il y a un certain nombre de données qui sont enregistrées et qui permettent, en fait, de reconstituer en trois dimensions le site et de le figer. Ce qui fait que si les enquêteurs veulent y revenir dans un mois, dans deux mois, ils ont vraiment les éléments en l'état au moment de la découverte avec le positionnement des ossements, ouais. Des vêtements découverts. Tout ça, ça permet ensuite d'exploiter la scène et d'éviter qu'elle soit perturbée par des dégradations météo ou par d'autres éléments.
Parce que Thomas Proutot, le mystère reste entier sur les circonstances de la mort du petit Émile. Je cite le procureur d'Aix-en-Provence qui dit « Nous ne pouvons affirmer si le corps d'Émile se trouvait déjà dans la zone. Est-ce que les eaux ont été placées là par quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'ils ont été déplacés ?»
Tout reste possible et ça a été effectivement affirmé à plusieurs reprises par le procureur d'Aix-en-Provence. Les deux hypothèses, les deux grandes hypothèses, criminelles et accidentelles, restent ouvertes. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ces dernières semaines, on va dire, en l'absence de corps, en fait, c'était la piste quand même criminelle ou de l'intervention d'un tiers qui était creusée à fond par les enquêteurs, notamment avec cette mise en situation qui a été faite au Vernay, qui était dans cette idée qu'il y avait pu avoir une intervention humaine. Donc c'est tout à fait une coïncidence, enfin c'est ce que tout le monde dit en tout cas, qu'elle a eu lieu trois jours avant.
La reconstitution, oui. Et le surlendemain, on découvre un crâne.
Pour ce qu'on en sait aujourd'hui, c'est vraiment une coïncidence. Il peut y avoir toutes les théories complotistes qu'on peut imaginer, mais c'était un hasard. Mais on était dans cette l'enquête se concentrait sur cela, et notamment aussi sur la suite des perquisitions qui ont lieu en novembre, 36 perquisitions, des téraoctets de données analysées, tout ça est toujours en cours. La découverte du corps a réactivé l'hypothèse accidentelle, qui, sans corps, était un petit peu, affadie. Et en fait, on se retrouve de nouveau avec ces deux possibilités.
Qu'est-ce qui fait que la découverte de ce crâne à cet endroit-là a réactivé la thèse de la mort accidentelle?
Parce qu'il n'est pas impossible. C'est
situé
à une distance. Voilà, c'est pas impossible. La distance est compatible. Alors, c'est ce qu'a dit le procureur, avec une implication qui serait partie en courant sur le chemin, qui aurait pu faire une chute un peu plus haut. Voilà, il est 25 minutes à pied, à marche.
Se serait perdu.
On se dit c'est possible, pas possible. En tout cas, c'est pas impossible. Le corps n'a pas été découvert à 10 km de là.
Alors, Audrey Goutard, il y a quand même des interrogations sur l'enquête. Je cite le maire du Vernet qui se dit très surpris qu'on ait retrouvé ce crâne dans une zone autant ratissée. Et c'est vrai, à quoi ça tient? C'est une joggeuse qui passait là par hasard et qui, boum, est tombée sur le crâne.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, ça remet un peu en question. En fait, il y a eu d'un côté un travail effectif et indispensable de la part des gendarmes qui ont, comme vous l'aviez très bien expliqué, ratissé et qui continuent à ratisser. On ne peut pas faire autrement lorsqu'on est sur une suspicion de meurtre, hein, quand même. On reste dans une information judiciaire avec une suspicion de meurtre.
Voilà. Donc, intentionnel.
Ou pas, mais en tout cas, le procureur a été très précis. Il dit, entre la chute, l'homicide involontaire et le meurtre, aucune hypothèse ne peut être privilégiée.
Donc ça fait trois pistes.
Hein. Ça fait trois pistes, voilà. Effectivement. Donc, oui, c'est une joggeuse, mais alors c'est souvent malheureusement le cas dans ce type d'affaires. La personne qui cherche des champignons, la joggeuse, en fait tous les gens qui pratiquent une activité où effectivement on sort un peu des sentiers battus. Et c'est le cas dans cette affaire-là. Alors, il y a ceux aujourd'hui, c'est toujours comme ça dans ce genre d'affaires, chacun y va dans son scénario. Alors il y a ceux qui disent, bon alors c'est la thèse de l'accident qui reprend le dessus, c'est ce que vous disiez. Et puis il y a ceux qui se disent au contraire, c'est quand même étrange parce que cette joggeuse, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle avait emprunté le chemin un mois auparavant. Et qu'elle n'avait rien vu. On voit, alors vous évoquiez très justement le chemin parcouru par ce petit garçon, 25 minutes. 25 minutes dans un petit sentier escarpé pour un petit enfant de 2 ans. Et 25, quand on dit 25 minutes, c'est 25 minutes, a dit le procureur, à pas d'homme. Donc c'est quand même, il a marché très loin, ce petit garçon. Et puis effectivement, il y avait le profil familial qui était un peu particulier, on le sait. Et cette reconstitution qui a eu lieu jeudi, je vous rappelle que le procureur n'a pas voulu donner la moindre information sur ce qui s'est dit durant cette reconstitution et ce sur quoi elle a permis d'aboutir.
Alors, on ne sait pas ce qu'elle a donné, cette reconstitution.
Est-ce que les enquêteurs, le procureur, gardent par-devers eux des informations puisqu'on reste quand même dans une enquête criminelle? Ça, on verra la suite.
Marilyn Baranès, dans quel état d'esprit peut-on imaginer, parce qu'évidemment, ils ne parlent pas, les parents du petit Émile, on imagine dévastés, ils savent désormais que leur petit garçon est mort, mais ils savent à quoi s'en tenir,
ils
désormais
savent. Oui et non. C'est-à-dire que, au fond, ce traumatisme en deux temps. Le premier, c'était la disparition. Donc là, c'est un premier choc. C'est tout le début de l'angoisse. Et avec ce vide, hein, on ne sait pas. Il est vivant ou il est mort. Que s'est-il passé? Donc ça, c'est extrêmement anxiogène. Mais tant qu'on n'a pas de corps, j'ai envie de dire, on a envie d'espérer qu'on va le retrouver vivant, même s'il faut imaginer qu'il ait été enlevé, mais qu'on le récupérera, mais qu'il sera vivant. Deuxième étape, là, on retrouve des ossements, notamment le crâne du petit Émile. Et là, on rentre dans une autre étape du traumatisme qui est effectivement, cette fois-ci, le début d'un deuil. Or, le début d'un deuil, là, va être extrêmement difficile parce qu'on n'a pas de corps. Or, le deuil, c'est l'assurance de pouvoir donc avoir une sépulture, et c'est le début du deuil qui commence au moment de la sépulture, pas au moment de la mort. Or là, on ne va pas enterrer un crâne.
Mais est-ce que néanmoins ça permet d'avancer que de commencer à faire son deuil? C'est au moins une étape dans l'acceptation de cette très douloureuse réalité pour les parents.
Écoutez, là, vous savez, un deuil, c'est quand même un moment où on a besoin un peu de calme, un peu de sérénité, un peu de temps pour penser. Or là, on est quand même dans un temps où on ne peut pas penser. C'est-à-dire que toutes les pensées fusent, vous venez de le dire, tout le monde l'a dit ici, il y a trois hypothèses. Ce petit village où il y a, je crois, 129 habitants est envahi de
journalistes.
Journalistes, de police, de drones, enfin bon. Donc en fait, pour penser et commencer un deuil, c'est compliqué. La seule chose qu'on peut dire, me semble-t-il, c'est ils ne sont plus dans le vide, donc ils ne sont plus dans l'angoisse. Parce que l'angoisse, c'est le vide. Donc voilà. Donc ils vont commencer à penser les choses, mais pour l'instant, c'est très difficile parce que des tas de questions entrent maintenant en scène qui sont, mais comment est-il mort ? Alors effectivement, les parents se posent aussi ces questions-là. Comment est-il mort ? Est-ce qu'il a souffert ? Est-ce qu'il n'a pas souffert ? Est-ce que c'est un accident ? Est-ce que c'est criminel ? Est-ce que ce n'est pas criminel ? Donc ce sont des questions légitimes.
Et qui empêchent de faire un deuil apaisé.
Qui empêchent de pouvoir faire un deuil et de dire j'ai enterré mon enfant et là je commence mon deuil. Là, pour l'instant, on est dans cet entre-deux. Donc c'est extrêmement difficile psychiquement.
Alors, saura-t-on un jour comment est mort le petit Émile ? Pour l'instant, le mystère reste entier, mais la découverte de son crâne la semaine dernière a provoqué une onde de choc dans le village du Haut-Vernay et relancé les investigations de la police. Une enquête complexe qui intrigue maintenant aussi les médias étrangers, comme vous allez le voir dans ce sujet de Léo Seux et Benoît Thébault.
Un des plus grands mystères de ces derniers temps, l'affaire de la disparition du petit garçon Émile, 2 ans et demi.
Triste nouvelle en France, une randonneuse a trouvé les os du petit Émile.
Et puis c'est surprenant, un voisin voit un enfant de 2 ans et il ne l'arrête pas, ne lui demande pas « tu t'es perdu ? Je te ramène chez tes grands-parents ?»
Les caméras du monde entier, braquées sur une énigme, au cœur des Alpes de Haute-Provence. Un village sous cloche, impossible d'accéder au Haut-Vernay depuis l'annonce de la découverte du crâne de l'enfant par une randonneuse samedi dernier. Dès le lendemain, des gendarmes spécialisés reprennent leurs investigations sur le terrain.
Aujourd'hui, ce sont des équipes cynophiles de recherche de restes humains pour pouvoir apporter un complément aux enquêteurs.
Les gendarmes de l'IRCGN, des enquêteurs scientifiques, sont à pied d'œuvre. Ils utilisent notamment ces drones pour cartographier en 3 dimensions la zone grâce à des capteurs.
L'objectif, c'est de fixer la scène pour la maintenir dans les meilleures conditions et pouvoir garantir le replacement des indices.
Que s'est-il passé le 8 juillet dernier ? Émile, le petit garçon de 2 ans, disparaît ici. Ses ossements sont retrouvés 2 kilomètres plus bas, le long de ce chemin forestier, non loin du ravin des Auches. À 25 minutes à pied pour un adulte, depuis le bas du village. Une zone déjà largement ratissée l'été dernier.
J'avais été fouillé par les bénévoles, par les gendarmes, par les hélicoptères, par les drones, par de la gendarmerie, tout avait été vu. C'est très éloigné de là où il est, du dernier lieu où on a pu constater sa présence. Le mystère se déplace, quoi, mais on est toujours dans le mystère.
Mercredi, le procureur d'Aix-en-Provence prend la parole. De nouveaux éléments ont été trouvés par les enquêteurs.
À proximité du lieu où le crâne a été découvert, un ruisseau descend la montagne. Le long de ce ruisseau, qu'on peut deviner par forte pluie devenir un torrent, ont été retrouvés par les enquêteurs hier, en contrebas du chemin, à environ 150 mètres du lieu de la découverte du crâne, certains vêtements que portait Émile le jour de sa disparition.
Une semaine plus tôt, avant même la découverte des ossements, une reconstitution avait lieu dans le hameau. 17 habitants, dont la famille, sont convoqués par les gendarmes. Il s'agit de comprendre où ils étaient, ce qu'ils faisaient, au moment de la disparition du garçonnet.
L'objectif de la mise en situation, c'est de retracer de manière chronologique la soirée du 8 juillet dernier et de pouvoir confirmer ou infirmer les éléments qu'ils ont pu recueillir pendant leur enquête lors des 9 derniers mois.
Une mort toujours inexpliquée. Les habitants vivent avec cette affaire depuis des mois. Dans le village voisin, l'émotion est forte depuis les dernières découvertes. Ses familles avaient même participé aux recherches en juillet dernier.
On a beaucoup de ravins, des pentes escarpées, des ronces. La végétation en été est très fournie. On peut imaginer, par exemple, que l'enfant se soit retrouvé en cas de chute dans un trou.
La science continue son travail. Dans ce laboratoire de la gendarmerie, la terre, les vêtements et les ossements du petit Émile sont analysés. Ils n'ont pas été enterrés et sur le crâne, aucune trace de blessure mortelle n'a été trouvée.
Ces seuls os ne permettent pas de dire quelle est la cause de la mort d'Émile Soleil. Entre la chute de l'enfant, l'homicide involontaire et le meurtre, on ne peut toujours pas privilégier une hypothèse plus qu'une autre pour expliquer la disparition puis la mort de l'enfant Émile.
Le corps a-t-il pu être déplacé? Pourquoi le crâne n'a pas été retrouvé plus tôt lors des battues? Des questions au cœur des investigations qui vont se poursuivre la semaine prochaine. Le Haut-Vernet restera inaccessible jusqu'au 15 avril, au moins.
Question téléspectateur, colonel Marie-Laure Pesant, c'est Alain en Seine-Saint-Denis. L'analyse des vêtements retrouvés peut-elle permettre de dégager une piste sérieuse dans l'enquête sur la mort du petit Émile ?
Alors ça va être tout le travail des experts, justement, de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, qui sont en train d'analyser ces vêtements. Sur les vêtements, on peut découvrir toutes sortes d'indices, on peut avoir des traces humaines, on peut avoir des fibres qui ne seraient pas celles du vêtement, on pourrait avoir aussi des éléments naturels, des biotopes différents qui pourraient nous orienter sur la zone où pourraient se trouver d'autres ossements. Donc on va avoir peut-être des éléments supplémentaires.
Quand est-ce qu'on les aura d'ailleurs ?
Alors, c'est complexe de vous donner un délai, parce qu'en fonction des analyses, on a un temps scientifique qui est assez incompressible. Il va falloir à un moment donné avoir des réactions. Ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines. Ça, je ne peux pas vous donner de détails.
Est-ce que vous les rendrez publiques, ces informations, ou vous les garderez un petit peu comme un joueur de poker qui ne montre pas son jeu?
Alors, on n'est pas vraiment dans cette logique-là, mais on a surtout un secret de l'enquête qu'il faut respecter. Et s'il y a des éléments nouveaux, il faut qu'ils puissent aussi nourrir l'enquête pour pouvoir confirmer peut-être une des hypothèses. On parlait tout à l'heure des différentes hypothèses. On a effectivement la thèse accidentelle, la thèse criminelle, qui continue depuis le début à être travaillée, à être exploitée. Donc peut-être que l'analyse des vêtements permettront d'apporter des éléments nouveaux ou pas. Mais en tout cas, ça nous permettra aussi peut-être d'avoir une idée aussi sur le point zéro, le fameux point zéro, puisqu'on se pose beaucoup de questions sur le fait qu'on ne trouve pas d'autres ossements sur le terrain, mais peut-être que le point zéro,
l'origine
reste du
corps.
Squelette est ailleurs.
Parce qu'on dit qu'un crâne, enfin c'est assez macabre, mais roule avec la pluie et donc il est fréquent qu'il se déplace du reste des
oui, on a ossements. Oui, on a un étalement en plus des éléments qui ont pu être recueillis, une centaine de mètres entre le crâne et puis les vêtements. Donc ça laisse penser qu'il y a eu un mouvement. On a trouvé sur le crâne des traces de dents d'animaux. Donc peut-être ça va dans le sens du fait qu'on est peut-être un animal qui a déplacé cet ossement. Donc il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut continuer de creuser, mais à la fois sur les vêtements, mais aussi à la fois sur le terrain, et continuer d'exploiter ce qu'on peut trouver sur les ossements pour voir si on peut peut-être retrouver ce point zéro qui nous apportera peut-être d'autres éléments sur l'ensemble de l'enquête.
Audrey Goutard.
Il faut que le téléspectateur se rende compte à quel point il y a eu des progrès dans cette matière-là. Par exemple, là, les vêtements, les chaussures du petit garçon ont passé l'hiver, finalement, si on suppose que ce corps s'est retrouvé dans cette situation-là juste au moment de sa disparition. Et on pourrait se dire que tout a disparu à cause de la pluie, de la neige, de la végétation, des animaux, etc. Aujourd'hui, grâce à la technologie, l'ADN peut être retrouvé même lorsqu'il y a eu la pluie, etc., sur un fibre de vêtement. Je vous rappelle une enquête récente où des clés avaient séjourné pendant des mois dans l'eau. Eh bien, plusieurs années après, on a retrouvé de l'ADN et on a pu confondre l'auteur des faits. Donc, vous voyez, cet appui que vous avez là est un appui extraordinaire et effectivement, la clé peut être dans les vêtements, si je puis dire.
Thomas Proutot, il y a une question aussi sur les chiens. Pourquoi n'ont-ils pas repéré le corps du petit Émile, alors que je reprends l'expression du maire, la zone a été ratissée de nombreuses fois?
Oui, on a passé la semaine sur RTL à interviewer différents experts et différents anciens gendarmes ou des différentes sources pour expliquer cela. Alors, et puis je pense que le grand public se dit, mais c'est pas possible.
Un chien à 300 mètres, il est capable de repérer une odeur?
Alors, à 300 mètres, il peut repérer une odeur. Il y a différents types de chiens. Il y a des chiens qui sont des chiens pisteurs et des chiens qui sont des chiens qui recherchent les cadavres. Et là, le procureur a été très précis quand il a fait sa conférence de presse. Il a dit que les chiens chercheurs de cadavres ne sont pas passés par ce sentier-là. Ce sont des chiens pisteurs qui sont passés à cet endroit-là. Il y a ce premier fait, et même beaucoup plus précisément, il faut voir que l'endroit précisément où était le crâne et les vêtements et tout ce qu'il y a au-dessus, c'est une pente très abrupte, avec des pierres, des maquis, beaucoup de végétation en été. Quand vous faites une battue, il y en a eu plusieurs, dans cette zone-là, rien ne garantit qu'à un mètre près, vous ne passez pas à côté du corps. Ça, c'est ceux qui ont fait beaucoup de battues, les gendarmes, policiers, etc., le disent. La battue, ce n'est pas une science exacte. Vous n'êtes pas certain de le retrouver. Il y a un exemple, on reviendra peut-être tout à l'heure dessus, qui a été beaucoup cité cette semaine, c'est Lucas Tronche, un adolescent de 16 ans qui disparaît en 2015. On a mis 2015, je crois, oui, c'est ça. Et son corps n'est retrouvé qu'en 2021. Il y a eu toutes les hypothèses criminelles, accidentelles. C'était un cold case. Eh bien, son corps a été retrouvé sur un rocher en contrebas d'une falaise à quelques dizaines de mètres de là où étaient passés les gendarmes plusieurs fois.
Donc on peut passer à côté.
On peut passer à côté. En tout cas, c'est ce qui nous a été dit et répété cette semaine parce que, évidemment, que je disais, le grand public se dit quand même, on nous a parlé de moyens extraordinaires sur Émile, caméra thermique, drone, légion, etc., etc. Donc cette question-là aussi, elle va rester quand même entière pendant... un moment, je pense.
Oui, colonel Marie.
C'est pour ça d'ailleurs qu'en fait, on emploie plusieurs moyens. En fait, on combine plusieurs moyens pour mettre toutes les chances de notre côté, d'avoir des éléments, de retrouver quelqu'un ou de retrouver des indices. Donc, c'est pour ça qu'on utilise aussi des drones, on utilise des hélicoptères, on utilise des battues citoyennes. On a plusieurs éléments pour,
maximiser
nos chances. Ouais. Mais effectivement, rien n'est infaillible.
Marie-Line Baranès, on s'interrogeait tout à l'heure sur le fait qu'un petit garçon de 2 ans, hein, il avait à peine 2 ans, ait pu aller aussi loin tout seul, parce que à vol d'oiseau c'est 1,5 km, mais si on emprunte le sentier c'est 2 km. En général, les petits enfants, ça vous semble plausible, ça, qu'un petit garçon de 2 ans parte comme ça à l'aventure?
Alors lui, il part pas à l'aventure,
il se perd.
Le petit garçon, il marche, il rêve. Après, il peut se passer un phénomène qui est connu, hein, notamment au niveau des sécrétions de noradrénaline, c'est la peur. Si le petit garçon se perd, eh bien, il va sécréter des endorphines et donc il va décupler sa force physique. Donc, un petit garçon qui est tranquille, à mon avis, il ne va pas marcher 2 km tout seul. En plus, il faisait très très chaud, je crois, ce jour-là, comme ça. Par contre, s'il se perd, il peut marcher beaucoup plus sans s'en rendre compte parce que la peur va décupler sa capacité physique. Donc ça, c'est... Donc du coup, ça peut être plausible. Mais je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit et ce que tout le monde dit ici. Juste sur la notion... Ce dont on est en train de parler, il me semble que c'est la définition de l'accident. Qu'est-ce que c'est qu'un accident ? Un accident, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas éviter. On a beau faire attention à tout et mettre des garde-fous pour éviter l'accident, si l'accident doit se passer, il se passe. Pourquoi ?
Parce que l'accident, parlez-vous ? Alors, le fait qu'on ne l'ait pas retrouvé alors qu'on avait maximisé les chances ?
Exactement.
C'est la faute à pas de chance, quoi.
C'est la définition de l'accident, c'est-à-dire un enchaînement de phénomènes les uns après les autres qui, d'habitude, parce que finalement on vit dans une espèce de, je pourrais appeler ça l'accident positif, c'est-à-dire que tout se frôle et ne se percute jamais, et l'accident c'est quand ça se percute.
Audrey Goutard, on peut aussi imaginer que le corps ait été placé par le criminel qui, le jour de Pâques, ayant entendu l'appel désespéré de la mère, dise, eh ben voilà, je vais un peu apaiser la tristesse de cette maman en lui rendant le corps de son enfant.
Oh, mais vous avez fait le scénario.
Ben non, mais c'est aussi, là, c'est aussi un scénario qu'on peut envisager.
Tout est envisageable. Oui. En fait, il faut savoir, et c'est peut-être pour ça que la population, les gens se passionnent.
Vous avez vous-même d'ailleurs une idée sur le scénario ? Je viens d'en livrer une.
Vous venez d'en livrer une. Alors moi, je pense qu'il ne faut pas écarter la piste criminelle parce que d'expérience, je vois qu'il y a qu'effectivement un criminel qui se sent pris au piège peut être extrêmement inventif et imaginatif et trouver des parades pour cacher un corps, pour maquiller une réalité, pour mentir, etc. Donc, bien sûr, et je sais que les enquêteurs n'écartent pas du tout cette piste. Après, oui, la piste accidentelle, bien sûr qu'elle est audible aussi, mais en fait, dans ces enquêtes criminelles, l'ouverture de l'information judiciaire, elle se fait pas pour accident, elle se fait pour on est sur une enquête criminelle. Et donc, à partir de là, il y a une direction d'enquête. Et cette direction d'enquête, elle est pour essayer de fermer, elle est de
on ferme les portes.
Toutes les portes, s'assurer qu'effectivement, on n'a rien laissé tomber, parce que si on oublie quelque chose, on tombe dans le cold case.
C'est dire si le mystère reste entier, un mystère qui, peut-être de façon morbide, nous le direz-vous, Marilyn Baranès, passionne la France. Je vous propose de retrouver Majid Kiat. Bonjour Majid, vous êtes reporter à France Info. Et c'est vous qui étiez en début de semaine dans ce petit village du Auvernais. D'abord, vous confirmez, il paraît qu'il y avait même des journalistes britanniques, allemands. Ça devient une affaire qui intéresse toute l'Europe, cette mort du petit Émile. Allô ? Alors, nous avons perdu...
Ah si, si.
Vous m'entendez ?
Oui, on vous entend. Allez-y, Majid.
Oui, ça a bugué juste avant. Alors oui, ça intéresse toute l'Europe. C'est assez particulier sur le terrain. Ce qu'on constate, c'est d'abord qu'on a pu croiser des journalistes étrangers. On était plusieurs dizaines de journalistes mobilisés au moment de la découverte des ossements sur place. Et puis les jours qui ont suivi, il y avait une atmosphère assez pesante, en tout cas en ce qui concerne les villageois. Il y avait très peu de monde, parce que peut-être vous décrire géographiquement, vous l'avez fait via une carte, mais peut-être vous décrire les lieux. Il y a d'abord le Vernet, où là, nous, les journalistes, on était parqués, on n'avait pas la possibilité d'accéder au Vernet. Et au niveau du Auvernet, donc on a la majorité des habitants qui ont leur résidence secondaire, en fait. Donc les habitants qui habitent sur place, eux, passaient par le Vernet. Donc nous, on avait l'occasion de les croiser. Il y avait des vérifications faites par les gendarmes sur place, mais il y avait très peu d'habitants. C'était certes le week-end de Pâques, donc on avait au niveau du Vernet quelques personnes qui venaient passer un week-end sur place. Mais ce qu'on a vraiment constaté, en tout cas sur le terrain, nous, journalistes, c'est que ça passionne vraiment toute l'Europe. On a croisé des journalistes allemands ou encore des journalistes suisses.
Comment les habitants du Auvernais réagissent-ils face à ce déferlement médiatique ? Parce que c'est un lieu très reclus, hein, le Auvernais, et très calme d'ordinaire.
Oui, tout à fait. Alors, ils réagissent à chaque rebondissement. Vous savez, nous, journalistes, on est mobilisés de terrain, on est mobilisés à chaque nouvelle, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais épisode de cette affaire Émile. Là, par exemple, au tout début, je me trouvais au Vernet au moment de la disparition, enfin quelques jours après. Les habitants nous répondaient à nos différentes questions. Ils s'inquiétaient de ce qui se passait sur le terrain. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'agacement maintenant. Ce que je peux vous dire, c'est que dans mon cas, je faisais des directs pour Télématin et France Info le matin très tôt. On était en place dès 6h du matin. Et il y a certains habitants du Vernet qui passaient pour aller travailler et qui étaient en colère en nous voyant. Il y a un habitant qui nous a dit, qui nous a interpellé, qui nous a dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?»
Voilà. Eh ben, écoutez, vous êtes en train de faire votre travail, Majid. Merci beaucoup de ce témoignage. Colonel Marie-Laure Pesant, le lieu du Auvernais est interdit au public parce qu'évidemment, sinon il y aurait des badauds qui viendraient par curiosité morbide, d'ailleurs jouer aux apprentis enquêteurs peut-être.
C'est important de préserver la zone, en fait, pour éviter qu'elle soit polluée, qu'il y ait des éléments qui soient amenés par d'autres personnes. C'est pour ça qu'elle est sécurisée. Il y a eu un arrêté d'interdiction pris par le maire, qui vient d'ailleurs de le prolonger
au 15 avril,
jusqu'à ce qu'on ait fini de fouiller l'ensemble de la zone. Et ce qui est important, c'est qu'effectivement, les habitants puissent continuer à vivre quand même sur cette commune, sur ce hameau. Et c'est là aussi tout l'intérêt d'avoir ce lien qu'on a toute l'année avec eux. Les gendarmes les connaissent bien. Donc, il y a une facilité aussi de savoir qui habite là, qui peut rentrer. Et donc les gendarmes sont présents à l'entrée justement de cette zone d'interdiction pour être vraiment certain que les personnes qui rentrent sont bien des résidents et ont toute leur place sur ce hameau.
Il faut montrer ces papiers. Marilyn Baranès, est-ce que d'ailleurs les habitants, est-ce qu'il y a une atmosphère très lourde dans ce village où au fond les habitants peut-être se portent des regards suspicieux les uns les autres en disant est-ce que c'est pas l'un des nôtres ?
Ben oui, là, on est vraiment on a un phénomène de psychose, hein, dans le village. On retrouve des ossements et donc il y a une espèce de croyance collective où chacun va imaginer que telle ou telle personne a pu faire ceci ou cela. Et donc là, on commence... Ce qu'on vient d'entendre là, quand quelqu'un du village dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» En fait, c'est de la colère, c'est de l'agacement. Mais c'est de l'agacement parce qu'on vient déranger et on est en pleine psychose. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans un phénomène de psychose, rappelez-vous notamment, bon, ça n'a pas vraiment de rapport, mais le Covid, hein, les gens étaient très nerveux. Était parce que très anxieux et tout le monde avait peur. Donc la peur, ça rend agressif. Donc oui, là, on est dans un phénomène de
Thomas Poutot, collective. Est-ce que tout le monde se suspecte les uns les autres, et y compris la jogueuse? Pourquoi
La promeneuse.
La promeneuse, oui. Alors voilà. Que faisait-elle là? Vous savez, dans les affaires de Colombo, souvent, celui qu'on voit au début, bah, c'est justement le criminel. Et pourquoi a-t-elle déplacé le CRAL? Pourquoi n'a-t-elle pas téléphoné aux gendarmes pour leur indiquer, bah, écoutez, je suis face à des ossements qui pourraient être le petit Émile?
Oui, alors tout a été imaginé sur la rendeuse, mais ça n'a pas duré très longtemps, cette dame qui habite. Alors, d'ailleurs, son identité est assez bien préservée par la gendarmerie. À ce stade, peut-être que d'elle-même, elle viendra raconter l'histoire. C'est quelqu'un de la région, hein, voilà, c'est ce qu'on sait, c'est une promeneuse. En fait, oui, il y a eu qu'à 24 ou 48 heures, on s'est interrogé tous, nous aussi à RTL, bien sûr, sur mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de cette dame qui n'a pas appelé les gendarmes, qui n'a pas fait venir les gendarmes à l'endroit où elle a découvert le crâne.
Qui a pris le crâne et qui l'a amené.
Bon, en fait, elle a une explication assez simple, c'est qu'elle a vu ce crâne, elle avait un sac plastique, elle n'avait pas de réseau dans cette zone, il n'y avait pas de réseau téléphonique. Donc, semble-t-il qu'elle s'est dit, si je pars d'ici, ça se trouve dans le temps où je ne serai plus là, le crâne aura disparu. Donc elle a pris le crâne, nous dit le procureur d'Aix-en-Provence, avec précaution, dans un sac plastique, pour le rapporter chez elle. De chez elle, elle a téléphoné à la gendarmerie qui est venue récupérer ce crâne. Ce qu'on n'a pas beaucoup explicité jusqu'ici, mais qui est une réalité évidente dans ce genre de cas, c'est que entre le moment où, dès qu'elle a été connue, il y a beaucoup de vérifications qui ont été faites sur elle. Donc il y a une enquête dans l'enquête qui a été faite sur elle assez rapidement pour voir s'il y avait quoi que ce soit. Si c'est quelqu'un, par exemple, si c'est elle qui avait pu avoir le corps chez elle, je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Ça a été écarté et ça a fini par ce commentaire qu'on a entendu à la conférence de presse du procureur d'Aix-en-Provence, du procureur et du colonel de gendarmerie qui a dit « elle a voulu bien faire ». Et bon, alors après, voilà, il y a peut-être d'autres éléments, mais en tout cas, ils sont pas du tout connus à ce jour. Pour ce qui est des autres, dans le village, on entend, alors on a, comme tout le monde, interviewé sur RTL beaucoup de monde cette semaine dans le village. Il y a notamment un chasseur qui a un terrain qui lui appartient là, dans la zone où le petit Émile est parti, qui dit « pour moi, c'est pas possible qu'il soit passé là ». Il y en a d'autres qui disent le contraire. Il y a une forme d'incrédulité.
Les chasseurs disent un chasseur l'aurait trouvé le corps, c'est pas possible.
Il y a un peu de ça, mais je pense qu'il y a autant d'avis que de gens dans ce village. Il faut se méfier évidemment puisque c'est une enquête criminelle. Audrey Coutard le dirait, et dans ces cas-là, il faut se coller à l'enquête, à ce que font les enquêteurs qui ont quand même la meilleure vision de ce qui est vrai et pas vrai, et on ne sait pas tout.
La suspicion au sein du village. De professionnels, vous suivez ces affaires. Bien souvent, en fait, le meurtrier, ça n'est pas un malfaisant de passage, c'est dans l'entourage. Alors, de la victime.
Dans la majorité des homicides, la victime connaît son meurtrier. Ouais. Donc, ces statistiques, c'est-à-dire que il y a une statistique qui le dit, et effectivement, c'est pour ça que les enquêteurs cherchent toujours dans l'environnement familial, amical, amoureux, ou même financier. Enfin, s'il y a eu un ennemi quelque part. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que puisqu'on parlait de la psychose dans ce village, et effectivement, chacun se connaît, c'est d'abord, il y a une particularité quand même dans cette affaire et dans ce village. C'est que c'est un village, vous l'avez compris, très petit, où tout le monde se connaît, où les enfants ont l'habitude de marcher, de se balader un peu de façon libre, puisqu'il n'y a pas de danger, et où dans cette affaire, il y a quand même des gens qui ont vu le petit Émile circuler dans le village le jour de sa disparition. Donc il y a aussi, psychologiquement pour les villageois, cette culpabilité ou en tout cas cette mobilisation beaucoup plus importante parce que ils l'ont vu, le petit Émile, lorsqu'il a quitté la maison familiale et qu'il a marché. Il y en a en tout cas, deux personnes qui l'ont vu et qui ont été entendues, complètement mis en dehors de l'affaire. Mais néanmoins, ça pose question, si vous voulez. Ça n'est pour l'instant, on n'est pas sur un ennemi venu de l'extérieur, on est sur, effectivement, ce petit microcosme où les derniers qui ont vu la victime font partie de ce microcosme.
Colonel Marie-Laure Pesant, est-ce que tous les détails permettent d'avancer, le moindre détail qui peut paraître anodin peut avancer. Et j'imagine, par exemple, vous, est-ce que vous recevez du courrier? Est-ce que vous le lisez? Est-ce que certaines révélations pourraient être faites de façon anonyme? Comment ça se passe?
Alors, recevez du courrier, on étudie tout, on peut recevoir du courrier, les enquêteurs peuvent avoir des signalements. Vous savez, depuis le début des investigations, ils ont procédé à la vérification de 1600 signalements.
Vous avez eu 1600 personnes qui vous ont contacté en disant « j'ai telle info, je vous la donne ».
Oui, on a alors soit des infos, soit des témoignages, soit des doutes. Donc 1600, c'est par mail, c'est par téléphone, c'est par
99%
courrier.
Sont farfelus.
Alors, pas forcément, mais en fait, il y a des gens qui ont peut-être l'impression d'avoir vu quelque chose et qui pensent que c'est important qu'on le sache, et c'est important si ça peut apporter quelque chose. On ne décourage pas les gens de nous apporter des témoignages, parce que parfois, un témoignage peut paraître... pour la personne qui l'a, elle se dit « oh, ça va pas apporter grand-chose ». Et puis finalement, nous, ça nous permet peut-être de confirmer quelque chose ou d'apporter une nuance à ce qu'on a déjà eu. Donc, c'est important de vraiment prendre tous les signalements au sérieux. Il y en a qui sont sérieux, il y en a qui sont un peu moins sérieux, mais il est important de tous les traiter.
Audrey Goutard parlait tout à l'heure de la stratégie de fermer des portes, c'est-à-dire que quand on travaille, on envisage tout, okay. Et puis une par une, on ferme chaque piste, exactement ça.
On est complètement dans cette logique, c'est important d'avoir vraiment une vision très large, d'exploiter l'ensemble des hypothèses, de vraiment travailler toutes les pistes qu'on peut avoir, et on ne ferme les portes que quand on est extrêmement certain que c'est pas le bon chemin, quoi. Et donc on est un peu dans cette logique, dans ce couloir, on ferme les portes et au fur et à mesure, et on arrivera peut-être sur la seule et unique piste qui va être la bonne, enfin en tout cas qui va être celle qui va nous permettre d'avoir une réponse à ce qui s'est passé, à la chronologie des faits
Est-ce que ça vous hante et quand on ne trouve pas, c'est une énorme frustration, l'impression de mal faire son travail ou bien vous dites c'est la règle du jeu?
Pour l'ensemble des enquêteurs, c'est vraiment, on vit avec son enquête. C'est quelque chose qu'on pense à ça tout le temps.
Pour l'entourage, c'est difficile ?
Pour l'entourage, pour la vie, on a la vie de famille, pour tout. C'est vrai qu'un enquêteur, il va, en plus, en gendarmerie, on a un principe de l'enquêteur qui démarre son enquête, la garde tout au long de sa carrière, du temps de présence. Donc, en fait, il va démarrer, puis ça va, toute la journée, il va y penser, il va travailler en équipe, il va y avoir d'autres enquêteurs, parfois des spécialistes, des experts qui vont venir le renforcer sur son enquête, mais il va y penser tout le temps. Et c'est vrai que quand il a
l'impression... Celui qui est sur le petit Émile, le gendarme qui travaille sur le petit Émile, s'il n'a pas la solution jusqu'à la retraite, il sera sur cette affaire.
Il peut, jusqu'à la retraite, parfois, il peut y avoir des mutations, mais c'est quelqu'un qui va y penser tout le temps. Vous avez une cellule nationale là, qui a été mise en place d'une vingtaine d'enquêteurs qui sont dédiés à cette enquête et ils vivent avec. C'est jour, nuit, c'est en permanence. Des événements comme il s'est passé là, pour eux, c'est quelque chose d'important, de majeur. Et c'est vrai que parfois, l'enquêteur, il est humain, il a sa vie à côté. Parfois, il la met un peu de côté parce qu'il a envie de trouver, il doit la vérité aux familles. Vous savez, les enquêteurs sont en contact avec les familles en permanence et ça crée un lien qui est quand même fort. On veut trouver des réponses parce qu'on voit la souffrance aussi des familles, des victimes de manière plus générale et c'est vrai qu'on...
C'est autant pour punir le criminel que pour soulager la famille des victimes qu'on fait ce travail.
Complètement, on doit cette vérité aux victimes et on veut tout mettre en œuvre pour l'avoir, cette vérité, et puis pour comprendre, apporter des réponses aux familles.
Alors, bien souvent, dans les affaires criminelles les plus complexes, c'est un témoignage qui permet de conclure une enquête. Le pôle Cold Case de Nanterre, qui travaille sur les crimes non résolus, utilise depuis peu les réseaux sociaux pour lancer des appels à témoins. Le but, trouver de nouvelles pistes dans quelques-unes des 700 dossiers sur lesquels travaillent ces enquêteurs. Sujet de Juliette Vallon et Emmanuel Bach.
C'est un appel à témoins nouvelle génération.
Trois viols successifs, espacés dans le temps, commis en 2002-2011, où nous retrouvons le même ADN.
La police a besoin de vos témoignages pour identifier et traduire cette personne devant la justice.
En quête d'indices, c'est le nom de ce format court diffusé par le ministère de l'Intérieur en début de semaine sur les réseaux sociaux. Une courte vidéo qui reprend les codes des séries policières. Rappel des faits avec le procureur et deux policiers. Ici, l'affaire concerne le violeur au couteau, un individu qui a sévi en France à partir de 2002.
D'après les victimes, à l'époque des faits, l'individu est décrit comme une personne âgée de 30-40 ans, de petite taille, 1m60 à 1m70, de corpulence moyenne, les yeux plutôt foncés.
L'affaire de ce serial violeur Un cold case qu'espère résoudre les enquêteurs du pôle judiciaire spécialisé de Nanterre. Derrière ces fenêtres, ils étudient déjà plusieurs témoignages reçus après la diffusion de cette vidéo. Le témoignage, un acte crucial de l'enquête qu'il ne faut jamais négliger, toujours creuser.
Il faut être capable de raviver la mémoire. Il faut être capable de ne pas l'induire, cette mémoire, rester donc neutre. Et avec des procédés d'enquête classique, arriver à ce que le témoignage soit le plus précis possible et le plus juste. Des témoignages qui peuvent paraître farfelus, éloignés, parce que le témoin n'a jamais fréquenté les lieux où le crime a été commis, peut néanmoins avoir quelque chose d'intéressant à dire. Peut-être qu'il ne sait pas s'exprimer et il faut pouvoir aller vers lui pour l'aider à s'exprimer mieux sur ce qu'il a raconté.
Frank Danroll, 47 ans, est le chef des enquêteurs Cold Case en France. C'est lui qui dirige la cinquantaine de personnes travaillant sur ces affaires criminelles non élucidées.
Ça, c'est la médaille de la police judiciaire de Lille où j'ai travaillé, avec la devise de croire et douter. Et croire et douter, c'est une devise qui va très bien, à mon avis, pour l'office central des cold cases. Parce qu'il faut bien sûr croire dans nos dossiers pour pouvoir les relancer. Et en même temps, être toujours capable de douter, être toujours capable de se remettre en question.
Le doute quitte parfois à changer les conclusions d'une enquête. 24 avril 2002, après avoir passé 15 ans derrière les barreaux, Patrick Dill s'est libéré, la justice s'est trompée.
Je suis extrêmement content de retrouver ma liberté, même si j'en mesure pas pour le moment encore toutes les conséquences. Je veux retrouver ma famille, je veux retrouver mes amis et je veux me reposer parce que je suis extrêmement fatigué, je suis usé.
Coup de théâtre. Il est acquitté des meurtres de deux enfants à Montigny-lès-Metz. C'est un témoignage clé qui a tout fait basculer.
Un témoignage a permis d'indiquer que la scène de crime, sur la scène de crime, un individu célèbre, Francis Solm, était présent à proximité de la scène de crime. Et ce témoignage-là a permis de faire avancer les investigations.
Le tueur en série Francis Holm a finalement été condamné à la perpétuité il y a 4 ans pour les meurtres de Montigny-lès-Metz. En France, on recense aujourd'hui plus de 700 dossiers cold case, des énigmes criminelles qui remontent souvent à plusieurs décennies.
Alors, question téléspectateur Thomas Proutot, c'est Robin dans l'Indre. L'affaire de Lina, la jeune fille disparue en septembre 2023 dans le Bas-Rhin, est-elle aussi devenue un cold case? Alors, vous nous rappelez, Lina, c'était cette jeune fille qui part rejoindre son petit copain à Strasbourg.
C'est ça, qui parle de la plaine et qui disparaît sur le chemin de la gare le matin. Voilà. Alors, devenir un cold case, il y a une définition pour le pôle de Nanterre, qui est le pôle des affaires des crimes sériels et non élucidés, donc pôle cold case pour le grand public, c'est 18 mois. Sans résolution. Là, on n'en est qu'à 6 mois d'enquête, à peu près. Donc, ce n'est pas encore un cold case. En revanche, on a tous les ingrédients du cold case, puisqu'il n'y a absolument aucun indice, aucune piste, pas de corps, si on suppose qu'elle a pu être tuée, ou pas de traces d'elle vivante. Donc, effectivement, on est dans le voilà, des questions. Il y a tous les ingrédients pour que ça le devienne.
Ça, il y a elle s'est volatilisée et donc
elle s'est volatilisée.
On n'a rien de matériel sur lequel puissent travailler les enquêteurs.
Nous à RTL, avec le dernier point qu'on a pu faire avec nos sources, comme on dit, c'est qu'il n'y a absolument rien dans les témoignages, dans la téléphonie, dans les voitures, dans les caméras de surveillance. Le petit ami qui avait été évoqué a été totalement mis hors de cause. Donc il n'y a pas le commencement du début d'un suspect dans cette affaire.
Marilyn Baranès, alors là pour le coup, la mère de Lina, d'ailleurs elle le dit, elle est totalement dévastée, elle ne sait pas si sa fille est vivante et si elle ne l'est pas, et elle se plaint en plus de ne même pas savoir où en est l'enquête. C'est-à-dire, elle dit, il y a des gens qui savent, et moi, la mère, on ne me tient pas au courant, parce que les enquêteurs, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, gardent certaines de leurs informations. Donc ça, c'est ajouter de la souffrance à la souffrance.
Oui, c'est vraiment, c'est infernal. C'est infernal, c'est-à-dire que d'abord, elle ne sait pas, donc...
Elle imagine sa fille l'appelant à l'aide.
Donc, elle imagine des tas de choses, hein. On a de la projection, on a de l'identification, c'est-à-dire, et si ma fille, donc on imagine, hein, si ma fille avait besoin de moi, si ma fille me passe un indice et que je le vois pas, et on a de la projection, mais dans ce cas-là, comment moi je réagirais, j'aurais peur, peut-être que je serais déjà morte ou pas, etc. Mais c'est extrêmement compliqué de vivre dans une situation où on se dit en plus que peut-être que notamment la justice sait quelque chose, et moi je ne le sais pas. C'est-à-dire que là, c'est infernal. Donc oui, c'est très difficile. C'est vraiment, il faut absolument. Je pense qu'elle est quand même prise en charge psychiquement parlant, au moins pour justement exprimer les choses et dire à quel point c'est difficile pour pouvoir être un petit peu soulagée et essayer de lui donner, de la remettre un petit peu dans le temps et de lui dire que le temps fera son œuvre et qu'on espère qu'on trouvera quelque chose.
Alors, colonel Marie-Laure Pesant, on l'a vu dans le reportage, il y a les appels à témoins, donc il y a le renseignement humain. Et puis surtout, maintenant, vous bénéficiez de la technique avec l'ADN, qui est une révolution dans les enquêtes, à tel point que le petit Grégory, qui est mort en 1984, c'est vous d'ailleurs qui êtes à la manœuvre sur cette enquête, que vous venez de relancer. Alors expliquez-nous, on essaye, dans le timbre de la lettre du corbeau, de voir s'il ne reste pas de l'ADN quand il du présumé meurtrier.
Vous vous doutez bien que là, je ne vais pas pouvoir vous parler de l'enquête, hein, puisque c'est une enquête.
Mais les techniques.
Mais concernant
40 ans après,
donc au niveau de l'Institut de recherche criminelle de gendarmerie, effectivement, il y a des évolutions dans les techniques. Au niveau de l'ADN, il y a eu un bond en avant, beaucoup de nouvelles techniques qui nous permettent de réétudier des scellés ou des objets qui avaient déjà été étudiés à une époque, mais avec les progrès au niveau de l'ADN, on a eu par exemple l'ADN mitochondrial qui a pu être découvert pour pouvoir comprendre, ça permet de remonter du côté de la maman. On a un certain nombre d'éléments, on peut retrouver de l'ADN, traiter de l'ADN dégradé, ce qu'on pouvait moins faire avant. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent justement de refaire des analyses et peut-être trouver de nouveaux éléments. Et ça se fait en lien aussi avec les enquêteurs, parce que le scientifique ne fait pas tout. Et c'est pour ça que nous, au sein de l'Institut criminel de la Gendarmerie nationale et du pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale, on a maintenant la division Diane, qui est la division des affaires non élucidées. Et nous, on ne parle pas de cold case, en fait, on parle de non élucidées.
En bon français.
C'est surtout qu'en fait, ça regroupe quelque chose de plus large. Non élucidé, ça peut être une enquête récente, mais qui n'est pas encore élucidée et sur laquelle on va pouvoir travailler. Ça peut être une enquête qui remonte à plusieurs années, qui patine un petit peu. Et donc là, on a des enquêteurs qui ont des techniques en psychologie, en criminologie, qui vont pouvoir réétudier le dossier, l'affaire, le déstructurer, le restructurer autrement pour arriver à voir s'il y a des éléments qui manquent ou des recoupements qu'on pourrait faire de manière supplémentaire.
Audrey Goutard, la science permet de façon spectaculaire de faire avancer des enquêtes qui paraissaient totalement embourbées.
Oui, alors elle continue la science à aider les enquêteurs. Je discutais justement avec un gendarme qui me disait que le 19e siècle, ça avait été clairement la photo qui a permis de figer les scènes de crime. Le 20e siècle, l'ADN qui effectivement apporte ce dont on vient de parler. Et puis le 21e siècle, eh bien, c'est l'intelligence artificielle au service des enquêtes. Et ça, c'est une vraie révolution, il faut le comprendre.
Alors, il y a la voix du corbeau, par exemple.
Alors, là, en l'occurrence...
Pour le petit Grégory, à la cassette.
La famille, effectivement, du petit Grégory, la famille Villemain, a demandé à ce que soit tentée, en tout cas, l'analyse par l'intelligence artificielle des voix de corbeau qu'ils avaient enregistrées dans les années 80 et qui pourrait, aujourd'hui, effectivement, l'intelligence artificielle, en comparant avec énormément de voix, puisqu'on le sait que l'intelligence artificielle fonctionne de cette façon-là, c'est de la comparaison, de l'association, et parfois, ça matche. Et donc, effectivement, ils veulent tenter cette expérience. Pour le moment, si vous voulez, l'intelligence artificielle va aider, par exemple, dans une affaire comme celle de Émile. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, les gendarmes, vous l'avez très bien expliqué, bénéficient d'énormément d'outils. Il y a cette reconstitution en 3D, il y a des auditions, 1200 signalements, auditions, il y a effectivement énormément d'éléments qui rentrent dans le dossier et un homme, même une équipe d'enquêteurs, ne peut pas arriver à comparer aussi bien que l'intelligence artificielle. Bientôt, vous mettrez ça dans cette espèce de broyeuse qu'est l'intelligence artificielle. Elle vous mixera tout ça, je vous le caricature un peu, et puis elle vous ressortira des questions, des indices, des informations. C'est un super informateur pour les enquêteurs, et à mon sens, c'est vraiment l'avenir de l'enquête.
Alors, avec nous, par Skype, Corinne Herrmann. Bonjour madame, vous êtes avocate pénale, spécialiste des cold case. Merci de nous rejoindre. Vous avez écouté cette émission depuis le début. Je rappelle votre livre, hein, Un tueur peut en cacher un autre, c'est chez Stock. D'abord, votre regard, vous d'avocate, sur tout ce qui vient d'être dit. Oui, bien souvent, le renseignement humain, mais également la science, permet de faire avancer des enquêtes. Vous en avez été témoin.
Bien sûr, par exemple, dans l'affaire Estelle Mouzin, que tout le monde connaît bien, le premier témoignage, vraiment le témoignage déterminant, ça a été une co-détenue de Monique Olivier qui nous indiquait que Monique Olivier, lui, avait parlé d'Estelle Mouzin. Et on l'a vu pendant le procès, elle l'a moins bien expliqué, mais elle a soutenu ce témoignage qui était vérifié et avéré. Et puis un deuxième témoignage, un peu plus tard, grâce aux médias, d'une personne qui avait croisé Michel Fourniret sur la route à hauteur pas très loin de la disparition, du lieu de disparition, 4 jours avant la disparition. Ces témoignages sont essentiels, ils sont extrêmement difficiles à sélectionner parmi tous les autres témoignages de bonne ou de mauvaise foi qu'on peut recevoir nous aussi en tant qu'avocats et que les magistrats peuvent recevoir, mais ils sont essentiels. Et puis je rappellerai que finalement les appels à témoins et je dirais toute la technique qu'on peut déployer au service de ces affaires existent depuis très très longtemps, puisque dans de très vieux journaux on voit des appels à témoins pour des affaires en 1800, 1900, pour des affaires criminelles. Et puis on voit par exemple le dernier exemple très très important, c'est Alerte enlèvement, c'est un appel à témoins aussi sous une autre forme pour retrouver des enfants et qui a fonctionné à chaque fois et qui a sauvé les vies de ces enfants à chaque fois.
Marilyn Baranès, on parlait de l'affaire Fourniret. Est-ce qu'il y a un profil type d'un tueur ? Est-ce qu'on pourrait imaginer d'ailleurs qu'un psy ou qu'une intelligence artificielle soit capable de déceler derrière le comportement d'une personne certains traits qui interrogent ?
Il y a évidemment de nombreux facteurs. Il n'y a pas un profil type, mais dans ces facteurs-là, on sait qu'il y a des troubles mentaux qui peuvent exister. On sait qu'il y a des gens qui ont été traumatisés, qui peuvent répéter quelque chose.
Des traumas dans l'enfance.
Des traumas non résolus. Des traumas non résolus. On sait qu'on peut avoir des gens qui ont des troubles de la personnalité avec une absence d'empathie totale, des problèmes de contrôle de la personnalité, des comportements violents. Donc ça, ce sont des facteurs qui peuvent entrer dans la psychopathie. Maintenant, il n'y a pas un profil.
Ce serait trop simple. Sinon,
ce serait trop simple.
Audrey Goutard.
On va essayer de définir ça, justement. Ouais. On avait Bertillon qui faisait des mesures pour essayer de définir si l'oreille de telle taille ou la taille du crâne, pouvait, à un moment donné, donner des éléments qui laisseraient penser qu'on est face à un tueur. Mais c'est vrai que l'âme humaine est plus complexe. Et donc,
ça s'appelle quand même de la psychopathie, hein, avec des trous de la personnalité, distorsion de la perception de la réalité et des gens impulsifs et instables et calculateurs et très froids.
Oui,
après, pour revenir à l'intelligence artificielle, il y a des pays qui ont la tentation aujourd'hui d'utiliser la prédiction, en fait. Ah. C'est la capacité de déceler au travers d'un profil de suspect, donc c'est la police qui s'en sert, d'un suspect, son profil, son histoire, la façon dont il répond aux questions, même l'intonation de sa voix. Si la voix est angoissée, des émotions,
de voir s'il va passer à l'acte,
etc. Et l'intelligence artificielle est capable de compiler tout cela et d'en ressortir quelque chose. Après, il faut faire très attention.
La science-fiction, là, ouais, c'est Minority Report.
Ça ressemble
au film Minority Report.
Mais après, il faut faire attention à ce que on a donné comme consigne à l'intelligence artificielle et tout peut être manipulé.
C'est vrai qu'il faut pas oublier que il y a de l'humain derrière l'intelligence artificielle, qu'il y a des éléments. Voilà, c'est un outil. Absolument. Nous, on l'utilise sur le traitement de données de masse où ça a vraiment une utilité. Notre logiciel Anacrim, par exemple, qui nous permet de faire des recoupements ou le traitement de données qui permet de mettre en lien certains éléments du dossier. Mais c'est vrai que c'est à prendre avec beaucoup de prudence et il faut ne pas négliger les autres sources d'information.
Alors, c'est probablement un des crimes non résolus les plus mystérieux de ces 20 dernières années. Et vous allez vite voir de quoi je veux parler. Une famille entière assassinée à Nantes en 2011 et un suspect dont le nom est connu dans toute la France, Xavier Dupont de Ligonnès. Romain Puertolas, un ancien policier, a fait de cette affaire son obsession. Laura Rado et Stéphane Lopez l'ont rencontré.
Depuis sa maison en Espagne, Romain Puertolas n'a jamais cessé de chercher Xavier Dupont de Ligonnès. Il a même cru l'apercevoir un matin de 2019.
Là, j'ai mon regard qui est attiré par là et je vois une personne en peignoir blanc en train de regarder la mer, en train de boire son café. Et le mec ressemble énormément à Xavier Dupont de Ligonnès. Et je l'ai vu de beaucoup plus près et c'était pas lui. Et c'est ça en fait qui m'a donné l'idée du roman.
Un
roman qui mêle fiction et enquête sérieuse sur la traque de l'homme le plus recherché de France. Xavier Dupont de Ligonnès, principal suspect du meurtre de sa femme et de ses 4 enfants, retrouvé enterré sous la terrasse de leur maison à Nantes en avril 2011. En menant ses recherches, Romain Puertolas a relevé plusieurs ratés. La PJ de Nantes aurait notamment négligé la piste Michel Rétif, le meilleur ami de Dupont de Ligonnès, décédé en 2018.
On a un appel téléphonique le 6 avril de 25 minutes, alors que personne ne peut joindre Ligonnès. Lui, son meilleur pote, le joint pendant 25 minutes. Et ensuite, quelques jours plus tard, ils arrivent en même temps, le 13 avril, dans la région de Roquebrune. Et pendant 3 jours, leurs téléphones vont borner à quelques kilomètres. Et le 15 avril, ils disparaissent tous les deux à 1 heure d'intervalle. Il fallait continuer à creuser là-dessus parce qu'on avait peut-être la solution. Je pense que ce n'est pas une coïncidence, ces bornages téléphoniques.
Lui ne croit pas une seconde à la thèse du suicide et explore dans son livre 3 pistes. La fuite en Espagne, celle en Asie et aux États-Unis, mais certainement pas en avion.
Une bien meilleure façon était de passer par une voie maritime jusqu'à l'Amérique centrale, le Mexique, et ensuite faire un passage terrestre du Mexique jusqu'aux États-Unis. C'est assez facile. Il y a des clandestins mexicains qui font ça tous les jours. Moi, d'après tous les PV que j'ai lus sur Ligonnès, d'amis et tout ça, il est quand même assez athée. C'est un mec qui en avait marre de l'éducation qu'il a eue de sa mère et de sa sœur, qui était une éducation très religieuse, avec cette église de Philadelphie. Je le vois pas dans des ordres religieux, des choses comme ça. Et puis, pour une autre raison, c'est un homme à femme. Et un homme à femme finit pas dans un monastère.
Depuis la sortie de son livre, Romain Puertolas reçoit quotidiennement des témoignages de personnes persuadées d'avoir croisé le fugitif. Chacun est soigneusement étudié par l'équipe de recherche qu'il a formée.
On a une personne qui est entièrement refaite. On me dit oui, il a fait de la chirurgie esthétique, il est tout refait. Bah non, parce que là, il se serait refaire le visage entièrement. Et puis en plus, il n'y a aucune trace. Enfin, je veux dire, la chirurgie esthétique laisse toujours des traces. Et les gens, en fait, ils s'attachent très rapidement. Ils s'attachent aux cheveux, la forme des cheveux un petit peu, et les lunettes. Et en fait, ils ne regardent pas le reste. Mais il y a des caractéristiques qui sont très, très personnelles au niveau des lèvres, au niveau des oreilles, du nez, des yeux. Mais ça, les gens, ils ne regardent pas ça. Ils regardent vraiment les lunettes et les cheveux. Des messieurs comme ça, il y en a pas mal, hein, en France et partout dans le monde.
Des impasses, donc, pour le moment. Mais Romain Puertolas veut croire que ces signalements pourraient un jour déboucher sur de nouveaux indices, sérieux cette fois.
J'ai toujours une partie dans moi qui le cherche. Ça, je peux rien y faire, c'est comme ça. Ça fait partie de mon obsession. Soit il va faire une erreur, soit on va retrouver quelque chose. En tout cas, on travaille énormément sur des pistes et on espère le retrouver. En tout cas, on va tout faire pour, ça c'est sûr.
Ne jamais faillir, ni se décourager, la devise d'un ex-flic entêté pour résoudre l'une des plus grandes énigmes judiciaires de ces 20 dernières années.
Voilà, avec toujours des rebondissements, puisque je précise qu'il y a eu des signalements qui ont été effectués dans le Doubs et il y a des vérifications qui sont actuellement en cours pour savoir si derrière Jean, c'est un pèlerin qui serait dans le Doubs, ça ne serait pas Xavier Dupont de Ligonnès. Question téléspectateur d'Alain. Xavier Dupont de Ligonnès a-t-il pu refaire sa vie et disparaître des radars? Tiens, Corinne Herman, c'est vrai que ce qui interroge, c'est qu'une semaine après, et on l'a vu dans le reportage, une semaine après avoir commis ces meurtres présumés, Xavier Dupont de Ligonnès était toujours vivant. On va voir ça. La dernière photo de lui, c'était le 11 avril dans le Var. Hein, il était en train de retirer de l'argent à un distributeur, sachant que les meurtres ont été réalisés entre le 3 et le 6 avril.
Oui, mais moi, je ne suis pas ce dossier en direct, mais sa psychologie, son fonctionnement, on a des références en France d'affaires d'hommes comme ça qui ont effacé leur famille et qui ont recommencé leur vie ou tenté de recommencer leur vie, qui ont effacé leur vie, en fait, en effaçant leur famille et qui étaient parmi nous et qu'on a retrouvés beaucoup plus tard. C'est rare, mais ça n'est pas inhabituel maintenant. C'est aux enquêteurs de prendre tous les éléments de ce dossier. Moi, je suis effarée, je vous le dis. comme je le ressens, parce qu'on vit ça dans les dossiers Estelle, Fourniret, Émile-Louis, je l'ai vu dans des dizaines de dossiers de disparition d'enfants, où on a des personnes qui font des enquêtes, qui ont accès à un dossier d'instruction, qui font leur analyse et qui viennent finalement troubler aussi les témoignages qu'on pourrait recueillir, qui seraient peut-être utiles à l'enquête. Et c'est un vrai problème que finalement le secret de l'instruction ne soit pas toujours bien respecté et qu'on ait comme ça des enquêteurs qui s'improvisent sur ces affaires. C'est un problème, en tout cas pour nous, en termes de cabinet d'avocats de défense des familles, c'est un problème aussi pour elles d'entendre des pseudo-scénarios, etc. C'est très compliqué.
Audrey Goutard, pour venir quand même sur la personnalité assez hors norme de Xavier Dupont de Ligonnès, il y avait ce fameux... il tue ses enfants et trois jours après, il dîne avec le dernier de ses enfants qu'il n'a pas tué.
Son beau-fils, oui.
Son beau-fils.
Il a tué finalement, mais...
Il finira par tuer.
Moi, j'avais eu l'occasion de lire effectivement le dossier et c'était très troublant de voir cet homme qui invite son beau-fils au restaurant. Donc, ce sont des témoins qui racontent la scène. Il y a cet homme d'un certain âge et son jeune adolescent de beau-fils. Et les témoins voient que ce jeune homme se sent pas bien, il va plusieurs fois aux toilettes, il explique qu'effectivement il a mal à la tête, etc. En fait, en dînant, son beau-père était en train de l'empoisonner, de lui donner des médicaments qui l'ont endormi finalement et il l'a tué dans la foulée. On voit bien la détermination, effectivement, de ce meurtrier. Une détermination froide et très organisée. C'est ce qui ressortait à chaque fois dans la procédure.
Alors qu'il a tué les autres, quoi.
Voilà, ce qui ressort dans la procédure, c'est un homme froid qui a programmé et scénarisé parfaitement. Il n'y a aucun défaut dans son plan. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on ne le retrouve pas. Et j'en avais, à l'époque, parlé avec les enquêteurs. Quelques mois, justement, l'affaire commençait un peu à patiner, etc. Eux avaient la conviction, alors c'était la conviction des enquêteurs à ce moment-là, qu'il avait été voir dans sa première cavale une femme qui était une ex-compagne et il avait essayé de l'entraîner avec lui, elle avait refusé et donc selon les enquêteurs à ce moment-là avec qui j'avais discuté, leur scénario, mais ils n'en avaient pas d'éléments, hein, était qu'il avait été suicidé ensuite. Mais bon, il n'avait aucun élément. On peut dire effectivement que cet homme se volatilise et dans le sujet, vous le montrez bien, il y a des pistes mais rien de tangible.
Marilyn Barnès, c'est un caractère assez spécial quand même d'être capable de tuer ses enfants et ensuite d'aller au restaurant et une semaine après, tranquillement, oui, de mener sa vie. Certes, on devrait être en vrac quand même dans sa tête, non ?
Non, vous l'avez très bien dit, c'est vraiment la définition de la psychopathie, hein. Froid, calculateur, maître d'eux-mêmes en toutes circonstances. Donc il ne va pas au restaurant. Et c'est dans sa stratégie que d'amener... Donc il utilise le restaurant comme un outil pour pouvoir amener sa proie dans ce restaurant, le droguer, etc., et ensuite aller le tuer. Mais il ne va pas au restaurant dans l'idée d'un moment de détente.
De détente,
c'est, non, non,
c'est dans son vraiment, scénario.
C'est son scénario de psychopathie. Donc, ce sont les psychopathes, ils sont comme ça.
Thomas Proutot, pourquoi est-ce que cette affaire continue de nous passionner, au point que, voilà, il y a encore eu un signalement, donc on l'a dans le Doubs.
Des dizaines de signalements depuis que sa sœur a publié un livre dont on a beaucoup parlé, avec des théories un peu totalement...
Mais même avant sa sœur, cette histoire passionne. Alors, non, mais pourquoi elle passionne cette histoire autant, plus que les autres ?
Parce qu'il n'y a pas de corps. Parce qu'il n'y a pas de corps. Parce qu'il n'y a pas de corps. Donc il n'y a pas de corps, donc tout est possible.
Et la personnalité, si vous voulez, du bonhomme ?
Il y a quand même une majorité d'enquêteurs qui pensent qu'il s'est suicidé. On va dire, à une époque, on se renseigne souvent sur cette affaire, c'était plutôt 50-50. La moitié, il est parti aux États-Unis où il s'est planqué. L'autre moitié, il s'est suicidé. Plus ça va, plus quand même, les gens qui connaissent bien le dossier disent non, il doit être dans une falaise, dans un trou de rocher, quelque part, derrière Brune-sur-Argence, là, dans cette nature très difficile, très escarpée, on ne peut pas tout fouiller, c'est impossible. Donc il n'y a pas de corps. À partir de là, tout est possible. Et comme ça fait 13 ans que ça dure, qu'en plus, lui-même avait laissé quelques éléments avec ce fait qu'il soit tamponné par les renseignements américains, qu'il ait exfiltré avec toute la famille, un grand secret, il a envoyé des lettres à un petit peu tout le monde. Bon, je ne sais pas si beaucoup de gens y croient, mais il a laissé des petits cailloux qui donnent tous les ingrédients pour des théories criminelles où chacun peut y aller. On a vu l'enquêteur, on a vu les journalistes aussi, probablement, on leur part. Et voilà. Et donc, quand il n'y a pas de corps, c'est le cas, et c'est d'ailleurs les trois affaires dont on parle aujourd'hui. Enfin, Émile, donc avec évidemment un basculement, un changement cette semaine. Lina,
Xavier Dupont-Ligonnès. Il n'y a pas de corps.
Colonel Marie-Laure Pesan, à chaque fois, vous êtes obligé de verrouiller les portes, comme on dit. Donc là, cette piste de ce pèlerin qui se promènerait allant de monastère en monastère sans pièce d'identité, qui s'appellerait Jean, vous êtes obligé d'aller vérifier si c'est bien lui. Alors, d'ailleurs, vous allez enquêter sur l'ADN d'une canette dans laquelle aurait bu la personne.
Alors, je ne peux pas vous donner de détails non plus sur l'affaire et l'enquête, mais oui, à partir du moment où on a des signalements qui sont faits, on doit pas les négliger. Donc à chaque fois, on va enquêter, on va vérifier pour savoir si ça peut être un élément, une piste, ou si c'est une porte, comme on parlait tout à l'heure, des portes qu'on a à refermer et qui n'est pas une piste sérieuse à suivre pour la suite des investigations.
Et vous n'avez pas d'état de pistes farfelues qui font qu'il faut les
entrer. On en a parfois, mais il faut quand même les étudier, il faut les suivre, parce qu'on peut avoir des éléments. Là, dans cette affaire, c'est vrai que la visibilité médiatique qu'on peut en donner par rapport à la sortie d'un livre ou par rapport à des événements, souvent ça réactive dans le grand public une attention qui va être différente, et puis dès qu'on va avoir l'impression de le voir ou voilà, quelqu'un qui lui ressemble, qui pourrait être, on va le signaler. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui fascine aussi par l'horreur de ce qui s'est passé, et donc les gens ont envie de savoir.
André Goutard.
C'est pour ça qu'on hésite, et que la France a longtemps hésité avant de faire des appels à témoins. C'est-à-dire que le problème de l'appel à témoins, c'est que, comme vous le dites très justement, ça suscite énormément d'appels farfelus parfois. Alors peut-être qu'il y a...
Alors là, c'est justement... Un email, on envoie les signalements par email, peut-être.
Ça veut dire que derrière, vous avez un policier qui va regarder, et puis c'est pas simplement lire l'email et se dire oh tiens intéressant, c'est regarder l'email, et même s'il ne trouve pas ça du tout intéressant et ça lui paraît complètement farfelu, il ira vérifier.
Oui.
C'est-à-dire que tout se vérifie, n'est-ce pas? Et donc le problème, si vous voulez, c'est toute l'ambiguïté des appels à témoins. Ça peut apporter, ça peut marcher une fois, mais effectivement pour 1000 fois où ça ne marchera pas du tout. Alors que dans d'autres pays comme les États-Unis, par exemple, l'appel à témoins est largement utilisé.
C'est pour ça que d'ailleurs il y a ce nouveau format maintenant qui est mis en place, enquête d'indices par le ministère de l'Intérieur lui-même.
Sur les réseaux sociaux.
Voilà, sur les réseaux sociaux, parce que l'objectif c'est aussi de maîtriser le moment où on va faire cet appel à témoins, pour pouvoir aussi voir de quoi on a besoin dans l'appel à témoins. C'est pas forcément un appel général d'avoir tout élément. Ça peut être des éléments pour savoir est-ce que quelqu'un s'est trouvé là à ce moment-là. Si vous étiez là à ce moment-là, faites-le nous savoir. Il y a des demandes qui peuvent être plus ciblées.
C'est trois affaires de viol avec une personne qui avait un couteau. Ce sont les affaires qui remontent à 2002 et 2011.
Voilà.
Et donc 13 ans après, il peut y avoir quelqu'un qui se manifeste en disant ah mais je me souviens.
Complètement. Et c'est important de faire appel à la mémoire collective, d'avoir des témoignages plusieurs années après. Il peut y avoir un changement de relations, ne serait-ce qu'entre les gens, des gens qui se parlent moins, des choses qu'ils n'ont pas osé dire.
Finalement, je vais le balancer.
Ça peut être aussi.
Mais bien sûr,
ça peut.
C'est ça.
Bien sûr. Très souvent, vous avez dans les affaires criminelles. Moi, j'ai eu l'occasion d'être en immersion pendant 2 mois à la brigade criminelle, et je me souviens très bien de l'importance du tuyau, de la source, de celui qui n'a rien dit pendant 10 ans et qui tout à coup se dit bon mince, allez j'y vais parce que le type a divorcé, parce que etc. C'est-à-dire que la vie des gens et l'évolution de leur vie finalement a une incidence sur la résolution d'une affaire criminelle, un cold case.
Les gens qui ont peur aussi parfois d'aller témoigner, qui avaient peur à l'époque parce que en fait ils disaient d'aller à la gendarmerie, à la police, et on n'y va pas forcément naturellement. Là c'est ce qui fait partie de l'appel à témoins d'ailleurs des magistrats de Nanterre. C'est de leur dire, vous ne risquez rien. Parce que même si on n'a rien fait, on peut se dire, si j'y vais, je vais rentrer dans un processus un petit peu.
On peut envoyer un email anonyme, j'imagine alors.
C'est un email.
Non, il est forcément identifié. Mais l'objectif, c'est justement de. Enfin, il ne faut pas que les gens s'interdisent d'apporter une information, même s'ils doutent ou même s'ils ne sont plus très sûrs. Tout élément pourra être utile, sera exploité. Il suffit qu'il y ait une personne qui nous apporte quelque chose, une autre qui ait quelque chose qui soit en lien. Enfin, en fait, tous les témoignages combinés peuvent nous apporter.
Oui. Il suffit que quelqu'un soit décédé et on avait peur de témoigner pour ne pas être découvert. La personne est décédée à côté, du coup, on n'a plus peur et on va dire des choses.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, Thomas Proutot, question d'Olivier dans l'Aisne. N'est-il pas étrange que rien n'ait été trouvé des mois durant, concernant l'affaire du petit Émile, et que des ossements et des vêtements du petit Émile émergent tout à coup?
Cette question, elle risque de planer longtemps sur cette affaire, en fait, parce qu'on en a parlé au début de l'émission. Les magistrats, le procureur d'Aix-en-Provence et les enquêteurs ont déjà donné beaucoup d'explications pour essayer d'expliquer comment ils avaient pu passer à côté techniquement, même s'il y avait des caméras thermiques, mais il faisait chaud, 30 degrés, elles n'ont peut-être pas marché. La battue, d'une pierre à l'autre, on peut se tromper, eh, viens voir, il y a quoi ? Je reprends ma ligne, mais en fait, je la reprends 3 mètres plus haut, donc j'ai raté une zone. Des chiens pisteurs, pas des chiens renifleurs de cadavres. Donc, oui, c'est possible. Encore une fois, on parlait tout à l'heure de l'affaire Lucas Tronche, cet adolescent retrouvé 6 ans après dans une zone qui avait été fouillée. Il était simplement en contrebas.
Et on l'avait loupé.
Et on est passé à côté. Donc, à ce stade de ce que l'on sait, c'est parfaitement possible. En plus, il y a des déplacements. On a insisté sur ça toute la semaine. Les intempéries très fortes dans cette zone peuvent faire descendre des éléments. Il y a beaucoup d'animaux sauvages dans le coin. Les traces de morsures sur le crâne qui devront être analysées plus précisément montrent qu'il a été touché par des animaux. Donc, oui, c'est possible.
Pour les gendarmes, ça a été quand même une petite claque de se dire, en fait, on croyait avoir tout fouillé, on a peut-être mal travaillé.
Alors, non, parce qu'on ne sait pas si les ossements étaient là au moment des fouilles. C'est ça, toute la difficulté. Et c'est ça, et en ça que les recherches, les investigations actuelles vont nous aider à préciser les choses. Parce qu'effectivement, il peut y avoir eu un changement de terrain avec, ça fait plusieurs mois, donc peut-être des intempéries, des glissements de terrain. Il peut y avoir un animal qui a bougé les ossements. Là, pour l'instant, on n'a qu'une partie des ossements.
Ou un suspect qui l'a amené.
Ou un suspect, c'est la troisième hypothèse, quelqu'un qui l'aurait déposé sur place. Donc, il y a encore tellement de possibilité, on n'est pas certain d'être passé à côté. C'est une possibilité qui est infime, mais il peut y avoir beaucoup d'autres explications.
Marilyn Baranès, question de Pierre en Haute-Garonne. Même si le village est isolé, comment un enfant de l'âge d'Émile, 2 ans, peut-il partir à presque 2 kilomètres de chez lui ?
Un enfant n'a pas la notion ni de la chaleur, ni de la difficulté, ni du nombre de centaines de mètres qu'il va faire. Donc en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il part se promener. Alors on imagine qu'il part se promener, mais on peut aussi imaginer qu'il part parce que quelque chose l'a gêné. Et que finalement, il part en colère.
L'animal.
Il part de chez ses grands-parents.
Il est fâché avec son grand-père, par exemple.
Je sais pas. Son grand-père l'a grondé.
Voilà.
Et il part. Bon.
Je vais retrouver mes parents.
Donc, en tout cas, il part. Donc, comment un enfant peut marcher comme ça ? Il peut marcher parce que la colère, la peur peut le faire marcher beaucoup plus que d'habitude. Et si ce n'est pas ni la colère ni la peur, il part se promener. Et après, c'est là où commencent toutes les interrogations. Est-ce qu'il rencontre quelqu'un ou est-ce qu'il se perd ?
Tiens, alors encore une autre. L'hypothèse de la mort d'Émile causée par l'attaque d'un animal est-elle plausible ?
Alors, on retrouve sur le crâne des traces de morsures d'animal
post-mortem.
Après, on n'a retrouvé qu'un petit bout du crâne et on n'a pas retrouvé l'ensemble du corps. Il y a effectivement dans cette zone des animaux qui peuvent être susceptibles, entre les chiens errants, on a même parlé d'un loup. Donc, il y a des animaux qui sont susceptibles de s'attaquer à un petit enfant. Mais pour le moment, c'est une piste qui a été plutôt écartée.
Eh bien, un grand merci d'avoir participé à cette émission qui touche à sa fin. Bonne soirée sur France 5. Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur francetv.fr. À très bientôt.